Audiolib présente « Qui a tué mon père ?» d'Édouard Louis, lu par l'auteur. Si ce texte était un texte de théâtre, c'est avec ces mots-là qu'il faudrait commencer. Un père et un fils sont à quelques mètres l'un de l'autre, dans un grand espace, vaste et vide. Cet espace pourrait être un champ de blé, une usine désaffectée et déserte, le gymnase plastifié d'une école. Peut-être qu'il neige. Peut-être que la neige les recouvre petit à petit jusqu'à les faire disparaître. Le père et le fils ne se regardent presque jamais. Seul le fils parle. Les premières phrases qu'il dit sont lues sur une feuille de papier ou un écran. Il essaye de s'adresser à son père, mais on ne sait pas pourquoi. C'est comme si le père ne pouvait pas l'entendre. Ils sont près l'un de l'autre, mais ils ne se trouvent pas. Parfois, leur peau se touche, ils entrent en contact, mais même là, même dans ces moments-là, ils restent absents l'un de l'autre. Le fait que seul le fils parle et seulement lui est une chose violente pour eux deux. Le père est privé de la possibilité de raconter sa propre vie et le fils voudrait une réponse qu'il n'obtiendra jamais.
Premier acte.
Quand on lui demande ce que le mot racisme signifie pour elle, l'intellectuelle américaine Ruth Gilmore répond que le racisme est l'exposition de certaines populations à une mort prématurée. Cette définition fonctionne aussi pour la domination masculine, la haine de l'homosexualité ou des transgenres, la domination de classe, tous les phénomènes d'oppression sociale et politique. Si l'on considère la politique comme le gouvernement de vivants par d'autres vivants, et l'existence des individus à l'intérieur d'une communauté qu'ils n'ont pas choisie, alors, la politique, c'est la distinction entre des populations à la vie soutenue, encouragée, protégée, et des populations exposées à la mort, à la persécution, au meurtre. Le mois dernier, je suis venu te voir dans la petite ville du Nord où tu habites maintenant. C'est une ville laide et grise. La mer est à quelques kilomètres à peine, mais tu n'y vas jamais. Je ne t'avais pas vu depuis plusieurs mois, c'était il y a longtemps. Au moment où tu m'as ouvert la porte, je ne t'ai pas reconnu. Je t'ai regardé. J'essayais de lire les années passées loin de toi sur ton visage. Plus tard, la femme avec qui tu vis m'a expliqué que tu ne pouvais presque plus marcher. Elle m'a dit aussi que tu avais besoin d'un appareil pour respirer la nuit, où ton cœur s'arrête. Il ne peut plus battre sans assistance, sans l'aide d'une machine, il ne veut plus battre. Quand tu t'es levé pour aller aux toilettes et que tu es revenu, je l'ai vu, les 10 mètres que tu as parcourus t'ont essoufflé. Tu as dû t'asseoir pour reprendre ta respiration. Tu t'es excusé. C'est une chose nouvelle, les excuses, de ta part, je dois m'y habituer. Tu m'as expliqué que tu souffrais d'une forme de diabète grave, en plus du cholestérol, que tu pouvais faire un arrêt cardiaque à n'importe quel moment. En me décrivant tout ça, tu perdais ton souffle, ta poitrine se vidait de son oxygène comme si elle fuyait. Même parler était un effort trop intense, trop grand. Je te voyais lutter contre ton corps, mais j'essayais de faire comme si je ne remarquais rien. La semaine d'avant, tu avais été opéré pour ce que les médecins appellent une éventration. Je ne connaissais pas le mot. Ton corps est devenu trop lourd pour lui-même. Ton ventre s'étire vers le sol. Il s'étire trop, trop fort, tellement fort qu'il se déchire de l'intérieur, qu'il s'arrache de son propre poids, de sa propre masse. Tu ne peux plus conduire sans te mettre en danger. Tu n'as plus le droit de boire d'alcool. Tu ne peux plus te doucher ou aller travailler.